Dans ce rapport annuel, ce rapport 2009, quels sont justement les points soulevés par Amnesty International, les points où l'Europe peut apparaître mauvaise élève en matière de respect des droits de l'homme, surtout dans les questions d'immigration? Quelles sont les remontrances dans ce rapport?
Alors, l'Union européenne de plus en plus fait un bloc de 27 États membres aujourd'hui, où un certain nombre de législations et de pratiques sont discutées donc à 27, mais hier à 12 et 15, et donc vont s'appliquer dans 27 États membres, 27 États membres parmi les plus riches du monde. Et de plus en plus, alors on peut très rapidement dire deux choses. Premièrement, aujourd'hui, les décisions sont toujours sur le modèle suivant, c'est-à-dire que c'est la Commission européenne à Bruxelles qui fait des propositions, et que dans un grand nombre de domaines, aujourd'hui, c'est les 27 ministres qui discutent d'un côté pour arriver à un accord, et de l'autre côté, le Parlement européen. Il y a une codécision entre les ministres et le Parlement européen, et tout ce monde-là doit arriver à un accord définitif. Donc, c'est un processus qu'il faut suivre de A à Z, c'est-à-dire des propositions de la Commission jusqu'au travail du Parlement européen d'un côté et des ministres des 27 États membres de l'autre. Deuxièmement, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce domaine-là, et dans le domaine du droit d'asile et du contrôle des flux migratoires, il y a un nombre de décisions importantes, de lois importantes qui ont été prises dans les années 2000-2005, et un certain nombre de ces textes sont revisités aujourd'hui. Et donc, on parle du paquet asile, par exemple. Et donc, aujourd'hui, l'Union européenne revisite un certain nombre de documents d'application dans les 27 États membres. Donc, c'est un calendrier très important aujourd'hui qu'il faut suivre très attentivement.
Ce paquet droit d'asile revisité, donc, est-ce que c'est un retour en arrière? Quels sont les points, justement, qui font débat?
Il y a plusieurs législations dans le domaine de l'asile qui ont été adoptées entre 1995 et 2005 sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Europe dans les 27 États membres, sur les procédures d'asile des 27 États membres, sur la répartition, ce qu'on appelle le règlement Dublin, sur la répartition des demandeurs d'asile en Europe entre les 27 États membres, et donc sur ces questions-là, sur la coopération pratique entre les agences de l'asile des 27 États membres. Malheureusement, aujourd'hui, et ça risque de rester le cas, malheureusement, aujourd'hui, l'application de tous les textes internationaux est divergente entre les 27 États membres, c'est-à-dire qu'un même demandeur d'asile peut avoir 50% de chances d'avoir le statut de réfugié dans un État membre et peut-être 0% dans un autre. Malheureusement, il y a de grandes divergences et le demandeur d'asile ne peut pas choisir. Ce sont des textes européens qui s'appliquent à la demande d'asile et grosso modo ce qu'on peut dire c'est qu'un demandeur d'asile qui arrive en Europe ne pouvant pas choisir l'État membre va se voir imposer de faire examiner sa demande dans le premier État membre qu'il aura traversé en arrivant. C'est un règlement un peu compliqué, difficile à expliquer, mais il y a une application un peu abrupte des textes européens qui empêche des demandeurs d'asile de retrouver leur communauté ou leur famille s'ils le voulaient. Et donc, ils ne peuvent faire examiner leur demande d'asile que là, dans le premier État membre traversé.
Quels sont les pays en Europe qui sont les plus concernés justement par ces flux migratoires et la gestion de ces flux migratoires et par les pays en Europe qui sont peut-être les moins exemplaires justement dans la gestion de ces flux?
Premièrement, disons que de manière générale, il y a relativement peu de demandes d'asile enregistrées dans les 27 États membres de l'Union européenne. 240 000 demandes d'asile pour 27 États membres qui sont parmi les plus riches du monde. Donc ça, un nombre relativement faible de demandes d'asile qui nous semble tout à fait gérable par l'Union européenne. Deuxièmement, la répartition est inégale selon les États membres et forcément les États membres qui sont plus à l'extérieur de l'Union européenne sont plus visés par les arrivées. Et donc Malte, Chypre, la Grèce, l'Espagne, l'Italie sont plus la cible, entre guillemets, des demandeurs d'asile. Et donc, par exemple, la France est en 11e position dans l'Union européenne au nombre de demandes d'asile, si on compare le nombre à sa population. Mais par exemple, Malte ou Chypre reçoivent, si on compare à la population du pays, reçoivent presque 10 fois plus de demandes d'asile que la France. La France est un peu en retrait, en arrière. Des pays comme les pays du Sud sont plus exposés et donc pour des États plus récents dans l'Union européenne, sans grande tradition de l'asile, c'est plus difficile pour ces pays-là. Donc il est effectivement exact que la situation soit très dure en Grèce pour les demandeurs d'asile, avec un taux proche de zéro de chance d'avoir le statut de réfugié en première instance pour des demandeurs d'asile en Grèce. Donc c'est regrettable et nous le condamnons. Mais en même temps, ce sont ces pays du Sud qui sont plus visés par les arrivées de demandeurs d'asile, notamment d'Afrique.
Alors c'est peut-être trop récent pour figurer dans le rapport 2009 d'Amnesty International, mais les récents raccompagnements des clandestins avant même leur arrivée sur le sol italien, raccompagnements en Libye, quelle est la position d'Amnesty International par rapport à ces reconduites, à ces expulsions ? Est-ce qu'il y a enfreinte du droit de ces personnes ?
Bien sûr, c'est une décision sans précédent que vient de prendre l'Italie. C'est dramatique, c'est très inquiétant, ça risque d'ouvrir la porte à bien d'autres décisions de ce genre dans d'autres États membres, voire dans d'autres régions du monde. Que s'est-il passé ? Quelques centaines de migrants arrivés sur des navires entre Malte, entre l'Italie. Malte et l'Italie ont eu un différend, ne se sont pas mis d'accord. Et la décision prise par l'Italie a été de rapatrier directement en Libye ces centaines de personnes sans aucun examen attentif individuel des situations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui arrivent sur ces bateaux en provenance principalement de Libye, qui arrivent en Italie, à Lampedusa en particulier, en 2008, selon les chiffres officiels du HCR, à peu près 75% de ces personnes demandaient l'asile et environ 50% de ces 75% obtenaient le statut de réfugié ou une autre protection. Donc ce sont vraiment des personnes qui ont besoin d'une protection internationale, qui viennent du Soudan, qui viennent d'Érythrée, qui viennent de pays comme ça où les violations des droits de l'homme sont connues, sont massives. Donc ces personnes doivent avoir accès à une procédure d'asile. Et là, le fait que l'Italie décide de renvoyer directement, sans examen attentif de leur demande, vers la Libye, est très très inquiétant. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est que apparemment la Commission européenne ne dit rien, l'Union européenne laisse faire, comme si tous les États membres et la Commission européenne cautionnaient ce renvoi abrupt, expéditif, par l'Italie vers la Libye, de centaines de personnes sans aucun examen. Donc beaucoup d'inquiétudes d'Amnesty, des courriers partis donc à la Commission européenne, aux autorités maltaises, aux autorités italiennes, et nous attendons des réponses, mais nous sommes inquiets de ce précédent.
Les mises en garde d'Amnesty International, comme dans ce cas-là, ou alors est-ce qu'il y a eu d'autres cas, est-ce qu'elles sont entendues par les États, par les organisations internationales ?
Ces alertes d'Amnesty et d'autres organisations ne sont pas assez entendues, malheureusement, nous le regrettons. Et on voit même que des propositions que nous faisions, que nous étions en train de discuter avec les États membres de l'Union européenne pour améliorer les textes, on a été obligé de s'occuper de ces refoulements massifs directs de l'Italie vers la Libye. Donc on est obligé de laisser le travail constructif de propositions d'amendements positifs pour s'occuper d'autres choses qui arrivent en catastrophe. Donc c'est pour ça que nous sommes très inquiets. En même temps, dans les propositions faites par la Commission européenne, par exemple sur l'amélioration du système de répartition des demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne, la Commission européenne a fait des propositions intéressantes qui correspondent à certaines de nos recommandations. Donc certains textes de la Commission européenne, quand ils sortent de la Commission européenne, sont intéressants. Maintenant, notre boulot, c'est d'aller voir les États membres, les 27 États membres, les ministres de l'immigration, les ministres de l'intérieur des 27 États membres, pour que les avancées proposées par la Commission ne soient pas supprimées par les ministres des 27 États membres. Là, ça serait une inquiétude de plus. Donc, on a un espoir avec les nouveaux textes de la Commission. Il faut que cet espoir soit confirmé et ne soit pas annulé par les décisions des ministres.
Alors le thème cette année de la présentation du rapport annuel d'Amnesty International, c'est la crise économique, aussi une crise des droits humains. Est-ce que justement ces nouvelles politiques très dures en matière de contrôle des flux migratoires sont un symptôme aussi de la crise économique ? Finalement, en temps de crise, ce sont toujours les plus faibles qui payent le prix en premier ?
Comme on le sait, en temps de crise, ce sont les plus faibles, ce sont les plus pauvres qui payent les premiers, malheureusement. Les travaux de l'Union européenne depuis des années vont dans le sens de contrôle renforcé des flux migratoires vers le territoire commun des 27 États membres. Donc le ver est dans le fruit, si je peux dire. Mais malheureusement, ce que nous craignons, c'est que la crise vienne encore renforcer cette tendance à accroître les mesures de contrôle vers le territoire commun de l'Union européenne. Donc l'inquiétude d'Amnesty depuis des années est renforcée effectivement par la période de crise qui risque de renforcer la crispation des États membres. De plus en plus, l'Union européenne risque de se protéger contre les migrants, contre les réfugiés, plutôt que de protéger des victimes de la crise.